Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Olivier.
Et je suis Jérémy.
Et je suis Alexis.
Je suis Fendoel.
Et ce soir, nous sommes le jeudi 16 octobre et nous allons vous parler du salon du jeu d'Essen 2014. Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième jour sur lequel nous sommes sur le salon, le premier jour vraiment ouvert au public, et nous avons eu toutes les emmerdes de la terre ce matin. La pluie, l'autoroute fermée, le passe-presse oublié dans la chambre, tout, ça a été catastrophique. Et heureusement, nous avions un rendez-vous avec Repose-Prod, avec Thomas Provost, et l'extrême gentillesse de nous attendre, de nous comprendre et de discuter un petit peu avec nous.
Oui, ça a été un entretien très sympa. Merci à lui pour son accueil et sa compréhension de tous nos problèmes. On fait très pro quand on rencontre comme ça un éditeur. Et donc, on a profité de l'interview avec lui pour qu'il nous présente toutes ses nouveautés du salon. Alors bon, c'est les extensions pour Seven Wonders, c'est Masquerade et c'est Cash and Guns. On va voir Cash and Guns serait intéressant comme refonte. Et puis, on a profité pour plus tard, on vous mettra d'autres chroniques qui arriveront au fil de l'actualité de RepoProd. Sur des petites actus sympas, mais on peut pas en dire plus pour le moment.
Samedi matin, 9h30, après quelques petits déboires, nous voici enfin avec Thomas de RepoProd. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors Thomas, on va faire deux interviews ce matin, une petite pour mettre en ligne ce soir. Donc tu vas nous présenter les nouveautés du salon. Et puis après, il y en aura une autre pour toi, ça c'est le teasing, ce sera dans quelques semaines, toujours sur Proxy Jeux. Alors c'est quoi les nouveautés de Repos cette année?
Bah donc pour Essen on sort deux extensions et un jeu qui est un jeu qu'on a déjà fait qui est Cash and Guns mais qui est bien la seconde édition. C'est clairement une refonte graphique mais aussi au niveau des règles, au niveau du matériel, au niveau du prix. On a vraiment voulu donner à Cash and Guns une seconde vie. Sa première vie était déjà très très bien mais je pense que sa deuxième avec les changements qu'on a apportés sera encore meilleur.
Ouais, j'ai entendu dire que c'était vraiment un jeu différent, enfin le même jeu mais qui a une façon de jouer qui est vraiment différente et qui n'est pas juste une repompée, une ressucée du jeu.
Attention, on n'a pas changé ça reste du Cash and Guns, donc globalement la mécanique générale est la même. Le but du jeu est d'être le plus riche à la fin des 8 tours de jeu. Il y a toujours des flingues. La grosse différence ici, c'est que ça se joue déjà jusque 8, donc 2 joueurs de plus, ce qui est très agréable. Le prix passe de 40 à 30, ça c'est vraiment au niveau de la position, c'est quand même assez fort.
C'est agréable aussi.
Et la plus grosse modification, en fait, qui change tout, et qui fait d'un jeu de bluff et d'ambiance un jeu de stratégie de bluff et d'ambiance, c'est que le système de partage a totalement changé. Dans le jeu de base, je vais vraiment expliquer simplement la nouvelle édition, mais ici, dans cette édition-ci, au début du jeu, il y a un joueur qui est le parrain. On fait le gunfight, donc chacun charge son flingue, on se braque. Il y a un petit détail de règle que je ne parlerai pas après, mais après le gunfight, le parrain, s'il est dans le partage, c'est-à-dire qu'il n'est pas blessé ou qu'il n'a pas eu peur, il va prendre une part du butin. Et puis on va tourner autour de la table et tous les joueurs présents vont chacun prendre quelque chose. Là où avant on partageait en part égale, ici il y a vraiment un ordre de partage, ce qui a permis d'apporter en plus des billets un système de collection. Donc l'idée c'est que dans les tableaux, un tableau ça ne vaut pas grand-chose, mais une collection de tableaux à la fin c'est plus facile à prendre. Et il y a aussi les diamants. Et les diamants, de nouveau, si vous en avez plein, vous aurez le bonus de 60 000. Donc vraiment, maintenant, il est très important d'être bien placé dans l'ordre du tour et de faire les bons choix au moment où c'est votre tour de choisir. Le truc important, évidemment, c'est qu'à chaque tour de partage, il y a le titre de parrain. Parce que si on joue à 8, par exemple, et que je suis le parrain, le joueur à ma droite, si je suis dans le deal, il va choisir en dernier, globalement. Donc il va avoir des merdes. Donc il va avoir envie de viser le parrain et les joueurs à sa gauche pour qu'il y ait le moins de monde avant lui dans les choix. Ce qui fait que le parrain a un super pouvoir qui est permanent, c'est qu'après le gunfight, il dit toi, t'as pas bien compris qui je suis. Tu vas changer de cible. Voilà. Et ceci en fait fait que les parties étonnamment sont un peu plus longues, 5 minutes, mais surtout il y a des vrais choix. Parce que avant on regardait juste le montant et on se braquait. Ici il faut vraiment regarder, s'il n'y a pas de tableau, il y a plus de chances que je me couche parce que moi je recherche des tableaux. Où il y a des diamants, donc il faut absolument que j'y sois, etc., etc. Donc ça, c'est la vraie grosse modification qui change totalement le feeling du jeu et qui amène vraiment une couche stratégique. Attention, c'est pas du Seven Wonders, les mecs n'auront pas un œdème cérébral à la fin, mais ça change vraiment très fortement. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé toutes les petites règles un peu compliquées. Donc il n'y a plus de jetons de honte, ça ne servait à rien. Il n'y a plus de bang, bang, bang. c'était les cris au démarrage quand on l'a présenté à la Gen Con. Et en fait, les gens ne demandent pas du tout. En fait, ils se rendent compte que le Bang 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 était une règle très chouette pour les gamers. Et que finalement, l'ajout de ce nouveau système de partage rend le jeu plus intéressant. Et donc, finalement, on n'a rien perdu avec le Bang Bang Bang. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a mis 18 pouvoirs qui sont toujours visibles. L'idée, c'est que c'est un jeu familial, mais avoir des trucs cachés dans un jeu familial, c'est toujours embêtant. Tandis que là, au démarrage de la partie, on donne un pouvoir à tout le monde. Le mec qui a déjà joué explique à chacun. On peut reposer la question, etc. C'est des pouvoirs permanents. L'autre système que j'ai oublié de dire, c'est que dans les parts du butin, maintenant, il y a même des objets. Il y a deux types d'objets. Il y a des chargeurs qui permettent d'aller reprendre une carte bagne. Et il y a un medikit qui permet de se soigner. Donc ça permet vraiment de changer des choses. Enfin, déjà de se survivre parfois un peu plus longtemps. Même si, comme il y a des chargeurs, le jeu reste très violent. Donc voilà, donc c'est vraiment le même esprit. On n'a pas changé les bonnes choses. On a seulement amélioré les faiblesses pour faire vraiment un nouveau jeu plus facile d'accès, mais plus intéressant sur le long terme, etc.
Et pourquoi ce choix d'une deuxième édition? Après tout, tu aurais pu dire le jeu, il a eu sa vie il y a 10 ans et puis c'est terminé. C'est toi qui t'es dit, tiens, on l'aime vraiment, on va le relifter justement pour enlever ces petits détails de règles. Ou est-ce que c'est le Blanc qui veut dire, attends, j'ai travaillé et j'ai une nouvelle idée?
À la base, en fait, le projet est venu de notre partenaire américain, de Asmodee US, qui était content, mais le style graphique ne plaisait pas tellement aux US. Et il y avait un problème de placement de prix. Et donc, je lui ai dit, bah, ok, je vais réfléchir. On a vu Ludo, je lui ai dit, bah, Ludo, on va refaire une deuxième édition. Mais quitte à refaire un truc, on va vraiment l'améliorer. Est-ce que tu as des idées? Et Ludo est revenu directement avec les trois quarts des idées qui sont dans la V2, avec des choix qui nous ont fait peur au début de vraiment enlever les bang, bang, bang. Et en fait, on s'est rendu compte que le nouveau système de partage, tous les petits détails de règles enlevés, en fait, fonctionnaient parfaitement. La dernière grosse question était le choix graphique. Et ça, on a pas mal réfléchi très longtemps. Et puis, on s'est tourné vers John Kovalik, en fait, qui nous paraissait le choix parfait. C'est-à-dire que sur le marché américain, il est très, très connu. C'est vraiment une énorme star. Sur le marché européen, il a beaucoup de jeux qui se vendent très, très bien, dont Munchkin, évidemment. Mais c'est pas ce choix-là. Enfin, ça, c'est important, évidemment. Mais c'est surtout qu'on voulait un style graphique qui reste familial, pas violent, où les adultes n'ont pas l'impression d'être dans un jeu à bas. Et qu'il soit montrable. Et donc il avait, un peu comme Gérard Mathieu, une patte qui fonctionnait et qui répondait à tous les publics sans abrutir un public, sans choquer l'autre, etc. Donc on était très content de travailler avec lui.
C'est vrai que le changement graphique est important et on a du mal à s'habituer, mais je pense qu'on s'y habituera parce que ce design, le gars a l'air tout gentil, il a le flingue à la main, ça change. Alors qu'avant, je sais pas, l'illustration d'avant rappelait Super Gang, on était dans un délire qui était en tant que joueur ancien, ça nous rappelait d'autres jeux déjà de gangsters.
Moi je trouve que c'est comme le fond du jeu, la forme change, mais reste un peu la même. C'est en date de Gérard Mathieu à Kovalik et en fait c'est une continuité mais un changement où on sait, l'identité reste là, donc c'est plus important.
Non, c'est très clair, mais c'est ce que les gens. La seule chose qu'il faut, c'est que un truc important, c'est que nous, évidemment, on est des vieux de la vieille du monde du jeu. Mais en 10 ans, il y a beaucoup de gens de nouveaux arrivés qui ne savent même pas ce qu'est Cash and Guns. Et plutôt que leur dire, ben voilà, il y a encore un nouveau jeu de placement d'ouvriers, etc., je pense qu'il faut revenir aux basiques. Cash and Guns, à l'époque, était déjà un gros best-seller. Je pense qu'on avait fait 80 000 boîtes dans le monde, donc c'était déjà du très très gros volume à l'époque. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas maintenant, surtout qu'il est vraiment réadapté au public actuel. Il faut que les gens arrêtent de se tourner vers le futur et prennent aussi des classiques qui marchent vraiment bien, en fait, tout simplement.
J'avoue que j'étais sceptique l'année dernière quand tu as dit que tu referais un Cash and Guns. Et finalement, alors les gens qui ont déjà joué, qui nous ont fait des retours, et finalement, quand tu expliques les niveaux, les changements que tu as fait, on voit effectivement qu'on n'est plus sur les jeux actuels. Effectivement, je pense que le jeu va vraiment gagner. Du coup, il va falloir que je change ma boîte. On enchaîne vite fait avec Babel. Peut-être moins besoin de s'apesantir dessus. L'extension pour Seven Wonders. Je sais que tu mets la pression sur Antoine, c'est ça, à chaque fois, pour sortir une nouvelle extension. Ouais, on en est presque là, parce qu'on a reçu Antoine Bozat il y a 2 ans. Et il disait, oui, moi, j'ai pas forcément prévu les extensions, mais il a pas dit l'éditeur de fouette, mais presque, hein, je crois, hein, c'est ça. Et au final, non, je dois avouer qu'à chaque fois, je suis surpris par la qualité des extensions qui permettent de vraiment renouveler le jeu. Moi, j'étais le premier à dire non, c'est bon, Seven Wonders, ça me suffit, et je suis le premier à craquer à chaque extension. Mais je sais qu'il y en a une autre. Donc, dans Babel, qu'est-ce que vous avez fait ajouter à Antoine qui change pour renouveler le jeu?
Ben, l'idée, c'est que, ce qu'on voulait, nous, et c'est vrai que c'est une décision d'éditeur, c'était de faire cette extension. Donc on a déjà un Google Doc avec toutes les idées, etc., de choses qu'on peut faire dans un jeu de civilisation. Historiquement, Babel, on avait fait en interne une première version qui avait déjà les bases, les idées, etc., avec des, il y avait des barbares, etc. Enfin bon. Et finalement, la version d'Antoine, il a tout recassé, il est reparti de zéro. C'est quand même son métier, c'est quand même l'auteur. Et clairement, là, il a été bluffant. Et donc, voilà. L'idée et le risque, un petit peu, s'il y a des risques sur les produits Seven Wonders, c'est de proposer deux extensions dans une seule boîte. Ça, c'est un peu particulier. Mais on s'est dit qu'au final, comme elles se tournaient toutes les deux autour de Babel, il n'y a pas de raison de les séparer, quoi. Donc, voilà. La chose qui est très, très chouette, dont on est très content, c'est que les règles sont ultra simples. Un nouveau joueur, il n'y a pas une couche de règles importantes. L'extension contient deux extensions qui sont compatibles, qui peuvent être jouées séparément, ensemble ou avec les autres extensions. La première, c'est vraiment l'idée de la merveille commune qu'on avait déjà depuis le début. On voulait, les joueurs voulaient ça. Et donc, l'idée, c'est que les joueurs vont voir construire les étages à merveille, mais qu'ils vont rayonner à tous les joueurs, à celui qui l'a construit et aux autres. Donc les joueurs vont vraiment devoir s'adapter. Et l'autre partie, c'est les grands projets. C'est le Kickstarter de le premier jeu Kickstarter dans une vraie extension. Donc l'idée, c'est que là, les joueurs vont participer ou pas à la création de ce grand projet. Si ça marche, bah très très bien, ceux qui ont participé auront une récompense. Si ça foire, ceux qui ont participé n'ont rien, mais les autres ont une pénalité. Et donc ça a demandé énormément de tweeting, d'équilibrage, parce que maintenant on joue avec déjà Seven Wonders, c'est un système fermé. Donc c'est vraiment, on ne peut pas se permettre d'ajouter des cartes comme ça à volo de manière assez aisée. Et donc là, il a vraiment fallu d'abord faire les extensions et puis voir quelles étaient leurs interactions. Et en fait, ce qui est très chouette, qui n'est pas mis dans la boîte quand les gens vont lire les règles, ils ne s'en rendront pas compte, mais il y a des interactions cachées. C'est-à-dire que dans les grands projets, certains grands projets permettent de gagner des jetons de victoire militaire. Et évidemment, dans Cities, par exemple, il y a des cartes qui ont un effet sur les jetons de victoire militaire. Donc, tout ça se parle de manière indirecte. Maintenant, les gens joueront comme ils le veulent, avec Cities et Leaders et les grands projets, avec Cities et Leaders et Babel, avec tout. Vraiment, les joueurs vont pas se dire est-ce qu'on joue à Seven Wonders, et comment est-ce qu'on joue à Seven Wonders, avec quelle extension, etc. etc. Et ils verront que ça change énormément le feeling, le gameplay. Maintenant, il y a toujours des gens qui vont préférer les grands projets plutôt que Babel, mais comme les parties restent courtes, à mon avis, les joueurs vont enchaîner, etc. Et ça relance vraiment. C'est en fait l'extension la plus très attendue, puisque les gens considèrent à tort, entre guillemets, que le Wonder Pack n'était pas une extension, alors que c'était beaucoup de travail aussi. Donc voilà.
Et au niveau du temps, ça rallonge pas trop. Tu restes dans le même temps ou ça va rajouter 5 minutes
Et même question pour la complexité. Alors j'ai l'impression que non, la réponse est non, mais est-ce que ça alourdit pas le fait de rajouter des extensions au final et que ça ne fait pas quelque chose d'un peu trop complexe, lourd?
Non, c'était vraiment une des volontés. L'idée, c'est que on regarde ce que font nos confrères dans l'édition et je ne veux pas d'un jeu qui, avec les extensions, devient une espèce de grosse usine à gaz. Carcassonne est un excellent jeu, mais personne ne connaît toutes les règles des extensions, etc. Il fallait juste faire des tuiles et puis qu'on s'arrête, quoi. Ça ne sert à rien de nous faire des catapultes et des machins, etc. Je pense que trop piste vel, comme on dit en Belgique. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est que les règles soient très très simples. La règle de Babel, de la tour de Babel, c'est à ton tour, quand tu jettes une carte, au lieu de prendre 3 pièces, tu peux construire un étage. Voilà, on peut commencer. Sauf qu'on retourne l'étage et puis il y a un effet sur l'étage, une icône. Ça, il n'y a pas de règle. L'icône, on l'explique. Pour les grands projets, je vais parler plus lentement, ça va aller mieux à mon avis. La règle est très simple. Quand un joueur joue une carte de la couleur du grand projet, il peut payer le coût de participation, qui est un coût supplémentaire, pour prendre un jeton de participation. Et à la fin de l'âge, s'il n'y a plus de jetons de participation, le grand projet est construit et les joueurs ont un avantage, ceux qui ont participé. Et dans le cas contraire, où le grand projet n'est pas construit, tous ceux qui n'ont pas de jetons ont un désavantage. Donc ça, la règle, en termes de règles, c'est très très simple. Des gens pourraient commencer très rapidement à jouer avec l'extension après une partie du jeu de base. Ils vont pouvoir jouer en termes de règles. En termes de richesse, évidemment, c'est autre chose. Le mec qui a plein de parties, il va savoir mieux s'adapter, il va savoir mieux calculer, etc. Mais, et en termes de temps, on a mis 40 minutes sur la boîte parce que ça rallonge un petit peu la durée du jeu, mais c'est pas excessif. C'est de l'ordre de 5 à 10 minutes, mais c'est des bonnes minutes, c'est-à-dire que ça reste de toute façon, tout le monde joue en même temps, donc tout le monde participe et tout le monde réfléchit en même temps, donc c'est pas très gênant. Maintenant, c'est sûr que si vous jouez avec le Wonder Pack, Cities, Leader, les deux extensions, on approche leur 10, leur 20 en fonction de la façon dont les joueurs jouent. Ça devient très complexe en termes de choix, pas en termes de règles, puisque Cities, il n'y a pas de règles. Leaders, ben, on joue à Leaders tout. Enfin, donc ça reste très très simple. Mais on passe de tranche de jeu. On ne reste plus dans un jeu familial plus. Là, on est dans plus du corps, mais pas du tout par la complexité des règles, mais par la difficulté d'analyser tout, de sentir ce qu'il faut faire, etc. Mais tant mieux. Ça permettra aux joueurs, aux vrais gamers de se plonger dans un Seven Wonders qui est un petit peu plus lourd que... Mais ça reste quand même du Seven Wonders, on n'est pas non plus dans du Terra Mystica avec... etc.
À mon côté, en général, on choisit une extension. Enfin, les Wonder Packs se mélangent avec le reste, par contre, ça va. Mais après, on choisit que Leaders ou Cities, et puis ça nous suffit, en fait. On préfère faire deux parties comme ça qu'une seule un peu plus complexe.
Donc, on sort aussi l'extension Mascarade. Donc, l'idée, c'est que Mascarade, c'est un jeu qui marche très, très, très bien, un peu partout dans le monde. Et quand on l'avait fini, on s'est dit avec Bruno, il n'y a plus moyen de faire d'autres personnages, c'est pas possible, on est vide d'idées. Et dès que le jeu est sorti, on a continué à jouer au bureau parce qu'on aime vraiment bien le jeu et on a eu quand même pas mal d'idées qui sont apparues. Et au final, de mémoire, il y a 13 nouveaux personnages, dont certains goodies que les gens ont toujours du mal à trouver et qu'on nous demandait, donc on les a inclus. Et la chose dont je suis très très content, c'est que les gens qui ne connaissent pas le jeu, imaginons j'ai des joueurs qui viennent, je peux directement les faire jouer à l'extension. Parce que c'est que des personnages. Et que je lui explique la princesse plutôt que le roi, ça ne change rien. Pour eux, ils n'y verront que du feu. Et ça rajoute pas mal de... Ça va encore changer les parties. Il y a des parties qui vont être un peu plus chaotiques, un peu plus déconnes, d'autres un peu plus stratégiques. Il y a vraiment encore de la rejouabilité qui est... La rejouabilité du jeu est encore clairement augmentée. Donc je pense que les fans de Mascarade, qui aiment bien le bluff, qui aiment bien les jeux d'ambiance vont adorer l'extension, quoi. Petit détail, c'est on a vraiment volontairement fait une boîte en soft pour que les gens jettent la boîte et mettent tout dans la boîte de base. C'est faut arrêter de vendre aux gens des grosses boîtes en carton dont on n'a rien à faire. Bon, Seven Wonder, Babel, c'est une grosse boîte en carton parce que là on n'arrive plus à tout mettre dans la boîte de base, mais il faut que les gens, ils n'ont pas non plus des énormes maisons, ils sont en appart, donc l'inutile et qu'on garde pas des boîtes.
C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai eu l'extension. J'ai jeté la boîte, j'ai juste mis tout dans la boîte de base, quoi. Et ça, c'est pratique, quoi.
Mais surtout que à un moment donné, tout a un coût. Donc si on met du carton plus rigide, ça a un coût et ça sert à rien si c'est pour le jeter. Donc, mais je pense que voilà, j'ai pas eu de mauvais retour là-dessus. Les joueurs ont bien compris que c'était une boîte achetée et qu'il fallait juste mettre tout dans la boîte. Donc voilà.
Bah, même pour les boîtes de Seven Wonders, je les ai achetées. Hein. Tu tiens dans la boîte de base, quoi.
Non, mais éthique.
Ouais. Enfin, je les ai gardés parce que ça sert de rangement pour d'autres trucs.
mais voilà. Bon, on s'arrête là, c'est bon ?
Oui, merci beaucoup, Thomas.
Merci, Thomas.
Merci, merci.
Sinon, pour ma part, je suis allé, après avoir distribué les passes groupes à tout le monde, J'en ai profité pour aller sur les stands d'occasion puisque j'avais récupéré toutes mes précommandes hier. Donc c'est dans le hall 2, dans le fond du hall 2, il y a la majorité des stands d'occasion. Il me semble qu'il y en a aussi quelques-uns dans le hall 1. Il y a des wargames dans le hall 1. Il y a quelques petits trucs. Et par contre, faut absolument aller demander si vous cherchez un jeu en particulier parce que j'ai eu la chance de trouver un Saint-Pétersbourg. Et caché derrière le comptoir, vous ne l'auriez pas trouvé sans le demander. Et malheureusement, de toute façon, je pense qu'il n'y en a plus sur Essen, malheureusement pour vous.
Mais Saint-Pétersbourg, c'est aussi un jeu qui ressort. On en a parlé quand ils ont fait leur financement participatif chez Spiel Offensif, je crois que c'était le site. Et maintenant, on le trouve sur le salon, il est entre 35 et 40 euros.
Loin des 20 euros que tu as payé ton exemplaire, Alexis, bien sûr.
Et toujours sans la tête de Vince Mazzucca, et ça, c'est fort dommage. Et je lui envoie plein de bisous.
Mais ça, c'est pour la troisième édition, non ?
On va la faire nous-mêmes. Hein. À un moment, il faut faire les choses. Faut y aller.
Et nous, avec Guillaume, donc Fendwell, le matin, nous sommes allés voir sur le stand des éditeurs coréens. On est allé chercher King's Push et Abracadabrat. Non, il n'y a pas que deux
derrière. Ils sont plantés.
C'est ça, ils sont plantés. Et nous faire dédicacer notre boîte de Abracadabrat par Marie Cardois. On n'a pas essayé King's Pooch. ce sera pour le dépunchage à la maison, et puis on verra si c'est bien ou pas. Ça peut. Et on s'est fait expliquer Chauzon par Emmanuel Maitrandeau, qui était là, dans Guimaume, la différence entre Chauzon et Corio, dans les grandes lignes.
Chauzon et Corio, on va retrouver à peu près le même nombre de cartes. On aura des familles de 1 à 9. On retrouve le principe de la majorité de Corio qu'on connaissait déjà. Et ensuite, on va avoir un côté plus agressif avec la possibilité pour toutes les cartes d'avoir un effet destructeur chez les autres. Donc, on va pouvoir aller casser de la carte chez les autres, échanger des cartes éventuellement pour créer des majorités. Donc on a des retournements de situation plus importants, une moins grande facilité à protéger ses armées, mais le thème aussi est plus guerrier, et on retrouve également ce thème dans les cartes qui n'ont plus de bord et qui sont sur des thèmes un petit peu plus agressifs, donc avec des personnages, et très jolis, avec des personnages armés, voilà, et qui vont parfaitement dans le thème.
Et Emmanuel nous a parlé, le deuxième enregistrement, la deuxième fois que je coupe Alexis, Emmanuel nous a parlé de Chauzon, donc on va l'écouter. Et puis Alexis nous a une petite chose à nous dire à propos de ça.
Et je suis actuellement avec Emmanuel Bertrandeau. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Super.
Donc Munster Game.
Oui.
Et présentation de Chauzon.
Alors on présente Chauzon, effectivement. Chauzon.
Est-ce que tu peux nous le décrire très rapidement?
Alors très rapidement, je dirais que c'est une... Pour les gens qui ont aimé Corio et qui veulent passer au step au-dessus, c'est exactement ça. En fait, l'auteur Gary Kim voulait faire un deuxième, voire un troisième opus qui suivait un petit peu l'histoire de Corio. Donc Chauzon est le nom de la dynastie qui a suivi après celle de Corio, créée par le général Lee, donc qui est lui-même dans le jeu. Donc en fait, on a fait une suite logique, c'est-à-dire à la fois, c'est historiquement, c'est la suite, et en termes de difficulté aussi, c'est-à-dire qu'on a repris la même base, mais le jeu est un peu plus compliqué, avec beaucoup plus de choix, donc c'est pour un public un peu plus joueur que Corio quand même.
D'accord. Il y a des choix, il y a aussi des événements.
Oui, alors on a à la différence de Corio, il y a toujours un principe d'événement. Sauf que là, l'événement est différent. À chaque fois qu'on le joue, on choisit par rapport au personnage qu'on a, quel type d'événement on va faire.
D'accord. Et puis, je règle le micro. Donc, il y a un jeu très agressif.
Oui, c'est beaucoup plus agressif que. En fait, Corio, c'était un petit peu une dynastie de politique. Chauzon, il y a vraiment une grosse guerre, donc on a voulu aussi représenter ça. Et donc oui, c'est beaucoup plus agressif, il y a moyen de détruire plusieurs cartes en même temps. C'est beaucoup plus militaire dans le choix de jeu, c'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir de jouer dans son coin, un petit peu à la Corio, mais si on veut jouer militaire et aller bourrer les autres, il y a vraiment de quoi le faire à tous les tours. Et si tous les joueurs font ça, on peut terminer des parties avec très très peu de personnages.
Chauzon, c'est ta seule sortie en ce moment, ou est-ce que tu as d'autres choses peut-être qui vont apparaître dans les prochaines semaines?
Alors apparaître dans les prochaines semaines, non, on travaille là sur la deuxième extension de Miniville. Et le prochain gros jeu à sortir, c'est Ryu pour fin du premier trimestre. Alors, j'ai rendez-vous avec les Japonais pour savoir. Pour l'instant, il y en a deux. Donc, on prépare la deuxième. Je voudrais voir s'ils en ont une troisième en stock ou pas. Parce que nous, on voudrait sortir une extension 5-6 joueurs. Mais pour pouvoir sortir cette extension, il faudrait que toutes les extensions soient déjà sorties. Parce que comme on est obligé de réimprimer les cartes nécessaires pour le jeu à 5 ou 6, on ne peut pas la sortir si une extension sort après, c'est compliqué. Donc pour l'instant, il y en a deux. J'attends une réponse peut-être aujourd'hui ou demain pour savoir s'ils en prévoient une troisième.
En fait, tu travailles plus avec la Corée, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que tu penses de Japan Brand ? Est-ce que tu es en relation avec eux ?
Ah oui, directement. Il y a deux game market jeux de société par an à Tokyo, j'y vais aux deux. Je travaille avec eux maintenant depuis 5 ans. Donc on se connaît bien, on a des très bonnes relations à tout niveau. Oui, c'est une boîte qui a grossi également assez vite parce que au début ils représentaient quelques auteurs, maintenant ils représentent des auteurs, des magasins, un distributeur et plein d'autres choses. Donc non, c'est une belle boîte.
Et outre la Corée et le Japon, il y a Taïwan aussi, c'est des choses.
Ouais,
c'est vraiment asiatique ou lorsque c'est isolé à quelques pays comme la Corée, le Japon?
Non, c'est isolé. Hein. Il y a pour l'instant. Taïwan, Corée, Japon, c'est les seuls pays. Il y a Chine, mais bon, la Chine c'est tellement différent que c'est 90% de copies, donc on peut pas vraiment parler de ça. Non, ouais, Taïwan, un tout petit peu Singapour, et Corée beaucoup, et Japon. Le marché coréen est très différent du marché japonais. Le japonais, c'est un marché core gamer. Le marché coréen est un marché grand public. Donc c'est la grosse différence entre les deux, quoi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je vois, Olivier, d'ailleurs, que tu as le merveilleux badge premier joueur de Chosen sur l'épaule.
Oui, j'ai acheté Chosen sur le salon.
Mais le badge, c'est pour le premier joueur.
Oui, c'est des pins. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des pins sur moi.
En fait, c'est la promo donc, qu'il y a sur Essen. Si vous l'achetez sur le salon, il ne reste plus beaucoup de boîtes. Vous gagnez, vous acquérez un superbe badge qui est un pins à la fois, qui représente le premier joueur.
C'est de la goodies, quoi. Alors, qu'est-ce que vous en avez passé? Parce que moi, j'ai juste vu de loin. Qui veut... Toi?
En fait, moi, je vais pas pouvoir nécessairement le comparer à Corio. On retrouve un petit peu les mêmes mécaniques. Ensuite, je pense que si vous avez aimé Corio, c'est vraiment à essayer. On a un jeu qui est plus dynamique et peut-être moins sur la défensive. Donc, ça permet des stratégies plus... je me suis trouvé plus à l'aise à essayer des stratégies agressives. Moi qui suis au contraire un joueur plutôt défensif. Donc, à mon avis, à essayer vraiment pour tous ceux qui avaient aimé Corio. Essayer Chosen, ça vaut le coup, à mon avis.
Et visuellement, je trouve que c'est beaucoup plus réussi. Il a enlevé la bordure blanche. Les images sont plus dynamiques dans les postures des personnages. Au niveau des couleurs, c'est plus vif. C'est beaucoup plus agréable, déjà, visuellement.
Puis, si vous passez sur le stand, il y a Yann Parolev, c'est ça ?
Parovel,
pardon. Qui est illustrateur, qui est co-illustrateur de Chosen. Il est très, très sympathique. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Lui taper sur l'épaule, il y a quelques mots.
Et il fait des superbes cartes de visite. Si vous avez besoin d'un designer, vous appelez Yann Parovel.
Message personnel.
Et puis après, on a profité pour récupérer nos précommandes de jeux, donc à Bracawatt, notamment parce qu'on pouvait le faire dédicacer par Marie Cardois. Donc elle nous a fait une jolie dédicace. C'était sympa parce qu'en plus, on s'est mis dans la file, c'était presque midi, et normalement à midi, elle finissait les dédicaces, mais elle a bien voulu nous dédicacer nos boîtes quand même. Et puis derrière nous, dans la file, il y avait Kenny, donc un auditeur. On salue ce soir.
Salut Kenny.
Yo Kenny.
Je sais pas si au micro ça s'entendra bien les saluts des autres derrière.
Et puis on a croisé aussi un autre auditeur, donc Mister Neuro sur Twitter, qu'on salue aussi.
Et donc après, Olivier, donc, tu avais un jeu à vendre à la Mad Trade. Donc la Mad Trade existe toujours à Essen.
Absolument, c'est même impressionnant en fait de voir des gens, peut-être 30 ou 40, avec des panneaux, avec des jeux, avec le bras tendu, et puis qui se tournent en rond, en fait, les uns autour des autres, en attendant de voir le jeu qu'ils cherchent, ou le nom de l'acheteur. C'est très, très marrant.
C'est quoi la Mad Trade ?
Alors, la Mad Trade, c'est une opération qui est organisée sur Board Game Geek tous les ans pour... en fait, c'est un algorithme d'échange entre les gens qui vendent des jeux sur BGG et ceux qui les achètent. Et puis c'était au fond de Hall 3, dans la galerie, et en fait, la galeria, et de ce côté-là, ils ont mis des tables, ils ont mis des chaises, ils ont mis même des divans, et on a pu manger. Alors, qu'est-ce que moi, j'ai mangé de la currywurst. D'ailleurs, si vous nous suivez sur Twitter, vous verrez la currywurst que j'ai mangée. J'ai pas pris de frites, parce que pour 3€ la barquette de frites, je trouve ça honteux. Mais j'ai bien mangé de la currywurst. Voilà, moi, je mange local. Qu'est-ce que t'as mangé, toi?
Moi j'ai pris les méga hot dogs là, avec la saucisse qui fait.
Par exemple, méga hot dog long surtout.
Le long hot dog, ouais.
Pas trop épais, mais long.
Oui. tu veux le faire pour moi? Oui, voilà, le hot dog de base. Quoi.
C'est toi, t'as mangé quoi?
Hot dog, pareil.
Le long aussi ou...
XXL.
Mais pas trop épais.
Moi j'ai mangé avec le joueur masqué et Yannibus, puisqu'on a testé pièce montée. J'ai tourné un petit peu en fin de matinée avec le joueur masqué, et puis du coup on a pas mal discuté, et puis du coup comme il a travaillé sur pièce montée, on a essayé, j'ai fait deux parties, c'est vraiment très sympathique, mais de toute façon on en reparlera plus tard puisque vous avez fait une interview.
On va peut-être mettre maintenant l'explication de pièce montée par le joueur masqué.
Voilà.
On est maintenant avec le joueur masqué qui va nous parler de pièce montée dont on vous a déjà parlé dans Proxy Jeux. Et tu étais en train de nous expliquer un peu globalement les mécanismes, comment ça marchait.
Ouais, alors le principe, donc on est tous autour, donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs.
Le principe, c'est qu'on est tous des cuisiniers autour de la table afin de déterminer qui est le plus grand chef pâtissier. L'épreuve du jour, c'est la fameuse pièce montée. Donc on a des cartes, j'ai expliqué tout en anglais. Donc on a des cartes, il y a 5 couleurs dans le jeu, 5 occasions pour faire des pièces montées. Je ne vais pas les résumer ici, mais elles sont toutes un peu avec une typologie bien particulière. Et chaque carte représente un étage de chaque pièce montée. Donc là, il y a une carte orange pour Halloween avec un 1 pour le premier étage. Dessus, on pourra venir placer la deuxième carte avec un deuxième étage. Et avec un peu de chance, on pourra venir y placer le troisième étage avec un numéro 3.
Ouais, on parle de pièces montées, c'est les gâteaux américains qui sont
exactement
en fait,
les typiques qu'on voit dans toutes les séries américaines. On ne va pas citer de nom histoire de ne pas se faire des ennemis. Quoi qu'il en soit, chaque carte existe aussi dans sa variante chocolat. Et donc on pourra très bien faire aussi la même chose, donc une pièce montée d'Halloween en l'occurrence, et en chocolat. Je ne trouve pas la carte 3, mais vous imaginez la chose.
Les valeurs sont pas les mêmes ?
Alors, c'est tout à fait la même. Pour l'explication, j'étais parti sur la variante donc familiale, d'initiation on va dire, à partir de 8 ans. Donc les gâteaux, il y a la même répartition de cartes, que ce soit en chocolat ou en crème. Et chaque gâteau, à la fin, vous comptez en termes de points. Les points sont indiqués dans les tocs ici. Donc un premier étage va rapporter 1 point, un gâteau de 2 étages va rapporter 4 points, et un gâteau de 3 étages va rapporter 10 points, que ce soit à la crème ou au chocolat. Forcément, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Le principe du jeu, il faut s'imaginer une sorte d'un habit compétitif. Alors c'est peut-être un résumé. C'est vrai, moi, c'est quelque chose qui me parle. Quoi qu'il en soit, donc au début de la partie, on va donner, suivant le nombre de joueurs, 3 ou 4 cartes. On va les tenir à la manière d'un ami. Donc les cartes sont recto verso. Et à son tour de jeu, on aura 3 actions à dépenser qui sont symbolisées par 3 cartes cuillères dans le jeu.
Des vraies cuillères en bois.
Des vraies cuillères en bois. Alors là, c'est des cuillères. Les cuillères en bois sont présentes quand on est sur le salon, quand on est présent, on les vend en direct. Dans la version disponible en magasin, donc c'est des cuillères en cartes. On pense à essayer de les intégrer plus tard, on verra comment ça se passe, mais on a des petites idées derrière la tête. Quoi qu'il en soit, à son tour de jeu, ces cuillères vont nous permettre plusieurs choses. Pour démarrer un gâteau, on va pouvoir dépenser une cuillère. Chaque cuillère utilisée va être donnée au joueur suivant. C'est simplement un compteur pour simplifier les actions pour les enfants, notamment pour avoir visuellement combien d'actions il leur reste. Donc pour démarrer un gâteau, c'est une action. On imagine qu'il nous reste 2 cuillères, je pourrais toujours en démarrer un deuxième. La condition, c'est qu'on ne peut pas faire exactement le même gâteau qu'on est déjà en train de faire. Donc j'ai fait l'orange à la crème, je ne pourrais pas faire un deuxième orange à la crème. Mais par contre, un orange au chocolat, il n'y a absolument aucun problème. Il me reste une troisième cuillère, je pourrais faire un troisième gâteau. La condition, une contrainte de plus, c'est qu'on ne peut pas faire plus de 3 gâteaux en cours. Il faudra au moins terminer pour libérer des places et continuer. La particularité, c'est qu'à son tour de jeu, on peut à la fois jouer les cartes que l'on voit dans sa main, mais aussi les cartes que l'on voit dans la main des autres joueurs. En l'occurrence, je peux jouer mes cartes côté verso d'une façon et jouer les cartes du côté recto des autres joueurs. Et donc il y a tout un jeu comme ça, on va pouvoir essayer de se piquer les cartes mutuellement. Sachant qu'il n'y a pas de surcoût si je prends dans ma main ou dans la main des autres joueurs. Une autre action possible, c'est que du coup, il y a par rapport aux cartes recto-verso, c'est qu'il y a une répartition exacte, que ce soit des deux côtés. Par exemple, derrière une carte orange, Halloween, ce sera forcément une carte orange. Si c'est d'un nappage chocolat d'un côté, ce sera forcément d'un nappage crème. En termes de chiffres, on l'aborde plus dans la variante expert. Donc c'est vraiment pour... Il y a une répartition bien précise, mais à partir de 8 ans, on oublie cet aspect-là qui est un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, du coup, à son tour de jeu, on pourra toujours dépenser une cuillère pour venir retourner une carte, soit dans notre main, soit dans la main des autres joueurs, et révéler ainsi la face qui potentiellement nous intéresse, et venir la piquer. Donc il y a tout un jeu, un peu d'interaction comme ça, à se voler des cartes. Je vous ai expliqué un peu le principe de base, donc la partie va se dérouler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes disponibles. Auquel... Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais pour poser un premier étage, c'est vrai, c'est une cuillère. Pour poser un deuxième étage, ce sera 2 cuillères. Pour poser un troisième étage, ce sera 3 cuillères. Donc voilà, sachant que quand on développe son gâteau, on va rester dans la même thématique, donc dans la même couleur et dans le même nappage. Donc on ne pourra pas mélanger tout ça. Donc forcément, il y a un peu de mémoire. On peut voir aussi, par rapport à la défausse, on peut voir les cartes qui vont arriver dans la main des autres joueurs. Donc il y a un petit jeu de mémoire aussi là-dessus si on veut la jouer stratégique. Donc la partie va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes disponibles en pioche. On va finir le tour afin que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et celui-là qui aura fait le plus de points remportera la partie. Donc tous les gâteaux terminés. Une fois qu'on a posé le troisième étage d'un gâteau, le gâteau est terminé et est mis immédiatement de côté, nous libérant une place. Et donc on va continuer le jeu comme ça. Donc tous les gâteaux terminés et ceux en cours de préparation déterminent notre score final. Pour la variante expert, donc je ne vous ai pas précisé la carte cuisinier et commis. Le commis, une sorte de petit joker, une sorte de quatrième cuillère qu'on pourra utiliser pendant son tour, qu'on pourra rappeler à nouveau, qu'on pourra utiliser aussi pour démarrer un quatrième gâteau si vraiment on est bloqué. Sinon, pour la variante un peu plus stratégique, on va ajouter un système de décoration, donc une sorte de quatrième étage bonus qui sera disponible au centre à travers une pile qui sera disponible pour tout le monde. Donc la condition pour récupérer cette décoration, ce sera, donc il faudra que ce soit son tour et que la décoration visible corresponde à notre gâteau. J'ai fini le gâteau orange à la crème, j'ai la décoration visible à mon tour, je la récupère gratuitement. Donc ça, on va se battre pour 2 ou 3 points de plus supplémentaires suivant le nappage et suivant la couleur. Et il ajoute aussi une répartition au niveau des cartes, au niveau recto-verso. C'est assez visuel, je ne vais peut-être pas le faire là maintenant en podcast. Mais quoi qu'il en soit, on sait techniquement que derrière un 3, ce sera forcément des 1. Mais par contre, derrière des 1, on a une chance sur 2 que ce soit un 2 ou un 3. Il y a des petits jeux comme ça, si on s'amuse à compter toutes les cartes qui sont passées, on peut avoir de plus en plus de savoir, on sait exactement ce qui est tombé ou pas.
Ça me donne faim de ça.
Très bien.
Merci beaucoup pour cette explication.
En tout cas, ces explications donnent bien faim.
En parlant de ça, qu'est-ce que tu as mangé ce midi ?
En parlant de ça, qu'est-ce que j'ai mangé ce midi ? J'ai mangé la curryverse comme toi, mais j'ai pris les frites.
Est-ce que tu es malade ?
Non, je suis pas malade.
Ah, vous voyez, on peut manger la curryverse et pas être malade.
Ouais. Non, mais faut pas trop en manger non plus. Par contre, j'ai goûté l'espèce de moutarde vinaigrée allemande. C'est sympa aussi. Autre sujet, on est passé chez Helvetia, le stand Helvetia Game, donc qui est un éditeur suisse.
Donc Helvetia qui lance un Kickstarter pour Helvetia Cup, qu'il a lancé aujourd'hui pour une durée de 30 jours, il cherche 55 000 euros. C'est peut-être des dollars d'ailleurs, je ne sais pas si c'est des dollars ou des euros. Ils en sont à peu près à 8 000 dollars, 7 500, peut-être 8 000 demain quand vous écouterez cette chronique. Écoutez, si vous avez envie d'avoir des belles figurines, si vous aimez Blood Bowl, si vous avez envie de vous faire, d'avoir une petite armée peinte, puis alors il a mis une tonne de paliers. C'est incroyable, même, je crois qu'il y a même un palier à 500 000 euros où j'ai entendu parler de cosplay et de succubes. Il veut faire venir toute une équipe de joueurs en cosplay. Donc les succubes en cosplay, si vous voulez les voir, il faut franchir le palier des 500 000 euros.
Et il a la plus belle télé du salon.
Voilà. Ça, c'était chez Helvetia Cup, et moi, j'ai récupéré mes coups brésiliens. Ça n'a pas été sans mal, il n'y a pas de rapport. Le coup, on parlait justement de financement participatif. En fait, mon coup brésilien, c'est une rencontre entre un super jeu, coup ou complot, et puis un graphisme étonnant. On vous a pas mal parlé de Sabé, il faudrait que j'attrape une boîte, j'attraperai tout à l'heure. Si tu peux faire ça, Alexis. Une rencontre entre le jeu qui est Coup, donc Complot, dont l'auteur est Rikitata, et puis je ne trouve pas le nom de l'illustrateur sur la boîte. C'est vraiment honteux. Alejandro. Bon, tiens, je te laisse chercher. C'est du financement participatif, donc forcément c'est compliqué. Je devais recevoir les boîtes par la poste cet été, et en fin de compte, je les ai récupérées que maintenant. Ça n'a pas été sans mal, mais je suis très content. Il y en a une pour Bruno Catala, puisque j'ai béqué le soir où il est passé. C'est très cheap, en fait. Ça sent l'amateurisme. Mais voilà, bon, c'est une autre version de coup.
Et pour les illustrations, Verberson Santiago.
Voilà, ça s'appelle Funbox Rogos. Je vais demander à Jérémy de mettre un petit lien sur le site. Et puis, Jérémy, on a vu Martin Wittberg.
Oui, on a croisé Martin Wittberg en début d'après-midi. On avait fixé un rendez-vous avec lui. On a échangé rapidement 2-3 mots sur le salon, mais pas grand-chose parce que le salon venait d'ouvrir. Et puis...
Oui, ça fait bizarre. Hein. Nous, on y est depuis 2 jours, en fait. On est venu tôt et on a passé tout notre mercredi sur le salon. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être déjà vendredi, en fait.
Et ils avaient une approche différente, parce qu'on s'est vu, c'était presque 14h. Et eux, ils avaient déjà vu les sacs plein de jeux. Et puis, ils disaient, là, on va rentrer à l'hôtel, puis on a envie de jouer, quoi. Toutes ces boîtes, ça donne envie de jouer.
Quoi ?
Alors que nous, on va continuer à courir tout l'après-midi, un peu partout, pour récupérer les boîtes. Ils disent, ils n'ont pas tort. C'est vrai que sinon, nous, on se dit, on va jouer à tout ça quand on va rentrer, mais on va rentrer avec nos 20 boîtes, et puis il y aura forcément des boîtes qui vont rester un peu plus sur le carreau, alors que... Il faudra avoir le temps de les jouer au fil de l'eau.
Et puis, avec toi, Guillaume, on a joué à Pinocchio. Alors, Pinocchio, c'est des Coréens, je crois. Et c'est ceux qui ont fait le meilleur jeu ever du salon, qui s'appelle Rabbit Hunt. C'est pas forcément eux. J'ai vu une boîte sur leur stand. J'ai remis en train de dire c'est pas forcément eux. Mais je pense qu'ils sont complices. Et alors, j'avais très peur. Et en fait, ils ont fait Pinocchio.
Pinocchio, c'est un jeu de communication. Alors tout de suite, le problème qu'on a rencontré dessus, c'est que les cartes sont en anglais ou en coréen. Donc a priori, à moins d'une traduction, il n'y a pas nécessairement d'intérêt d'y jouer en français. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire croire des mensonges ou des vérités, justement, à d'autres, aux autres personnes autour de la table, et d'être suffisamment convaincant pour qu'ils vous croient ou qu'ils ne vous croient pas. Alors c'est un jeu qui se fait complètement au bluff. On va inventer un mensonge énorme ou une vérité qui est vraie mais qui n'est pas croyable. Et les autres vont évidemment, on va pousser les autres à la faute. Voilà, c'est un petit jeu sympathique et il est superbement illustré. Par contre, les illustrations sont très sympas.
Avec une compétence d'habilité, parce qu'on empile le nez de Pinocchio jusqu'à le faire tomber. Enfin, c'est un des comptes de points. Enfin, c'est comme ça qu'il décompte les points. Et puis on a été voir Fresh Fish, je vous en ai parlé pour la préparation des Suns, j'en ai peut-être parlé hier d'ailleurs. On est allé l'essayer. Alors je laisserai mes petits camarades dire ce qu'ils en ont à dire. Ça pique les yeux. Et en fait j'ai dit, Age of Steam, c'est un exemple type d'un jeu fonctionnel mais qui marche très bien. Et il y a des jeux qui sont très beaux. Bon, qui marche très bien aussi, mais lui, il est ni fonctionnel ni beau. Il marche bien aussi, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Un parti pris graphique est horrible. Par contre, ça reste un excellent jeu, un jeu qui est pas pour tout le monde, un jeu d'enchères à points farmés, de placement. Alors j'ai dit que c'était pas fonctionnel, c'est pas vrai parce que il y a quand même des aides de jeu par rapport à l'ancienne version qui font que c'est plus accessible avec les joueurs de maintenant. Je vous le conseille, ça reste pour moi un jeu qui est incroyable, qui est un peu comme à la Hansa Teutonica, qui m'a mis une baffe en fait, mais qu'il faut essayer. Jérémy, qu'est-ce que t'en penses toi de Fresh Fish?
J'ai trouvé ça très bien, ça m'a vraiment rappelé les jeux que je jouais il y a 10 ans.
Tout simplement.
Soyons clairs, hein, c'est vraiment les jeux typés allemands comme il y a 10 ans, même il est plus vieux que ça, hein, détaillé, il date de 97. Mais voilà, on est sur une autre époque complètement de jeu. Moi, je serais moins enthousiaste que toi, hein, je dirais peut-être pas que je le conseillerais à tout le monde parce que...
Je conseille pas tout le monde.
Ah oui, ouais, tu conseilles, oui, mais, ouais, comment on va dire, c'est difficile, la première partie sera difficile de toute façon. Apprendre à lire le plateau, moi au début, j'étais en pleine nage, hein, avant que je comprenne. Déjà, j'ai confondu les voiturettes avec les cabanons à un moment, tellement c'est merveilleux. Tellement c'est pourtant, on pouvait pas se tromper entre le rose flashy et puis les maisonnettes, mais bref. Ça...
La limonade et les poissons.
Ouais, ou c'était l'heure, c'était vers 15h, je sais pas, j'étais pas frais non plus. voilà, on n'a pas pu finir la partie, ça c'est dommage parce qu'en fait il y a toutes les heures il faut changer, faut laisser la place aux autres et c'est dommage parce que en fait on était à un niveau de la partie où quand on arrêtait, on ne devait pas nous rester beaucoup, hein, je pense il nous restait, on avait fait plus de 80% de la partie, mais c'était impossible de savoir qui gagnait réellement parce qu'en fait il y a cette tension en permanence, une forte interactivité entre les joueurs. Par contre, j'ai pas aimé le hasard dans la pioche des tuiles où on va poser ces petits cabanons. Mais bon, c'est pas grave. À rejouer de temps en temps, mais je sortirai pas ça avec tout le monde.
Pas assez prise de tête pour toi, alors. Pas encore assez prise de tête pour toi. C'est rigolo. Et toi, Game, qu'est-ce que t'en as pensé?
C'est I2.
Merci. Un autre jeu, juste pour le signaler, qui a été réédité, c'est Crazy Circus, un nouveau boîtage. C'est un jeu où on doit empiler des animaux, qui est très joli, qui est très sympa, Dominique Harard. Et c'est réédité chez...
Gameworks,
voilà. Et puis, toujours avec Fenduel et Jérémy, nous sommes allés essayer Witness.
Witness, c'est un jeu chez Istari, c'est un jeu de communication pour 4 joueurs, je pense quasi exclusivement 4 joueurs, dans le thème dans le thème de Blake et Mortimer, même si j'ai trouvé personnellement que le thème était plutôt léger.
L'idée, c'est que nous sommes quatre personnes qui devons essayer de résoudre une énigme en ayant chacun un quart des informations nécessaires à la bonne résolution de l'énigme. Et en fait, il y a un petit principe de téléphone arabe, c'est-à-dire qu'on va parler à notre voisin et dire les informations qu'on a, et au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus d'informations, avec, à la fin, théoriquement, on a toutes les informations qui nous permettent de comprendre et de résoudre l'énigme sur la par la suite. Et ensuite, les points marqués par les joueurs correspondent à l'ensemble des bonnes réponses qui donneront à trois questions qui seront posées. Et j'en ai pensé que le thème est quand même assez plaqué. Ensuite, ça ressemble à des petites énigmes. Alors, il existe 64 énigmes, si je me rappelle bien, dans la boîte de base. Et les énigmes sont croissantes. Alors, on a essayé vraiment que deux énigmes. La première était extrêmement simple. La deuxième était un poil plus compliqué.
Un poil plus compliqué, on a fait 4 points.
On était
minable. Oui, alors la première était simple, la deuxième, un poil plus compliqué. Bon, voilà, il y a une gradation dans la complexité.
Et voilà, on était loin des très compliqués, c'est-à-dire que sur les 60, il y a à peu près 5 niveaux, je crois bien, et on avait fait un niveau 1 et un niveau 2, donc voilà. Ensuite, je trouve dommage d'avoir fait un thème Blake et Mortimer pour un jeu au final où ça me semble assez peu exploité. Je sais pas ce que t'en penses, Olivier.
Moi, j'ai aimé. Je trouve que c'est pareil. Enfin, ça aurait pu être autre chose. Ça pourrait être comment on dit dans la voiture déjà ? C'est Mickey ? Les énigmes de Mickey ?
C'est ça.
Oui, mais j'en ai limité, ça pourrait être ça aussi. Mais bah, ça va vendre, ça va faire vendre, c'est bien. Ça va permettre de pouvoir amener ça au grand public. Et ensuite, on a fait quelques achats, des goodies pour Carcassonne, une extension pour Labyrinthe des Pharaons, puis une dernière partie, Banya. De Brian New chez Mattel. Et Banya, c'est pas bon. C'est des mécanismes qui sont ajoutés les unes aux autres. Et en fin de compte, ça part d'une bonne idée où, en fait, on va construire des tentes. Les tentes, on les construit avec des cartes de couleurs. Les tentes ont elles-mêmes une couleur. Et quand on va poser une tente à côté d'une autre tente qui est déjà sur le plateau, on va avoir un discount sur le prix de la tente qu'on va installer. Et au final, il y a aussi un système d'éléphants. Mais ça marche pas forcément bien parce qu'en fait, on défausse des cartes pour mettre des tentes et au bout d'un moment, soit on a ces fameux éléphants mais qui disparaissent quand il y a cette tente, soit il faut lancer des dés et où on n'avait pas toutes les bonnes règles ou alors ça marche pas mais c'était pas transcendant. Bref, Alexis, qu'est-ce que t'as pensé du Pôle Yello ? C'est l'événement qui a conclu cette soirée. Enfin, c'est l'enregistrement du podcast, c'est ce qui a conclu la soirée, mais. Donc le pot de Yello, c'est ça.
On était sûr.
Le pot de Yello, donc ce qui a conclu la journée, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Bah, c'est toujours aussi sympathique. L'année dernière, c'était donc il y avait eu l'apéro de Yello et puis Repoprod la même soirée. Non, on était reparti et on avait enchaîné, d'où quelques souvenirs pour certains. Bonsoir Mathieu. Non, mais du coup ce soir, je sais pas s'ils sont arrangés, mais en tout cas ils ont pas fait ça le même soir et du coup c'est vrai que c'était sympathique. On a failli tous se faire jeter comme des malpropres par la sécurité et puis ils sont arrangés.
Quand ce soir ?
Vous savez comment ça marche ce soir ? En fait, il faut payer. Et si tu payes, c'est pris à peu près à la location d'une journée à la télé, d'une télé à la journée, et tu payes et t'as le droit d'aller jusqu'à 22h. Et donc à la fin, ils ont dit on paye. Comme ça, on a pu rester, mais à bout d'un moment, il n'y avait plus de bouteilles, donc on est parti quand même.
faut dire qu'on en avait bien profité.
J'ai la photo des cadavres.
Je ne suis pas encore mort, s'il vous plaît.
Bon, et demain, alors, qu'est-ce que tu fais ?
Demain, je vais profiter pour vraiment jouer, parce que du coup, en termes d'achat de jeu, je pense que là, je suis... Voilà, bien. Je crois que je suis à 20... Là, en même temps, je commence à en avoir beaucoup pour des gens. 20. Mais je suis à entre 20 et 25, donc... Non. Ah oui, le prototypage, c'est d'enfer. Non, bah, je vais commencer demain par une partie de Pay Dirty. Donc c'est encore un...
Pay Dirty.
Avec Merlin Dumesnil. Et bah, c'est encore un print and play qui voit l'édition. Donc comme quoi, le print and play, c'est, une, bah, c'est aussi... ouais, c'est l'avenir. Et toi, Guillaume, tu as l'air perplexe.
Tu l'as fatigué. Ouais, je suis crevé. Non, bah ensuite, effectivement, oui, moi aussi, j'ai récupéré, je pense qu'il doit me manquer une boîte en préco à aller chercher. Mais l'essentiel de la journée, je pense, effectivement, jouer un peu plus que ce que j'avais fait aujourd'hui.
Tu veux essayer ?
J'ai pas d'idée plus que ça. Peut-être essayer des jeux que j'ai achetés. Ça serait pas bête.
Non, ce qui serait pas bête, c'est les essayer avant de les acheter. Mais est-ce qu'on peut ? C'est ça le problème. C'est que j'ai l'air de faire mon malin, mais est-ce qu'on peut sur la scène ? C'est pas toujours facile. Et toi, Jérémy ?
Je sais pas encore. On a encore un planning pour demain qui m'a l'air serré. Je sais plus. Plusieurs entretiens. C'est Olivier qui tient l'agenda. Il se remplit au fil des jours. Je suis un tueur inquiet. Je sais pas, aujourd'hui, je me suis laissé porter par vous. Demain, je vais, au petit déjeuner, je vais quand même essayer de reprendre mes listes de jeux que je vais aller checker à droite à gauche pour être sûr de pas les rater. Sinon, ça va faire comme tous les ans. Je vais me réveiller le samedi matin, je vais dire, mais j'ai encore pas fait la moitié de ma liste. D'ailleurs, ça me suis fait la réflexion. Je me suis dit, voilà, le salon avance et j'ai toujours pas vu ça. Et en fait, je me suis rappelé que ça faisait 3 heures que le salon était ouvert et que j'avais encore 3 jours et demi devant moi. Donc ça va, j'ai pu souffler un peu.
Alors, programme pour demain. Donc nous allons voir Bombix le matin, on ira voir, il y a beaucoup de dédicaces, dont Nayad, dont va profiter Eve à 11h, à midi on ira voir Mushroom Games, à 13h Ludovic Papeis chez Yellow, et puis bien sûr le soir à 19h Repop Rod, donc c'est voilà, pour boire de la bonne bière belge. Voilà, donc ça c'est notre programme pour demain. J'espère que cette chronique vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le site, à tweeter, retweeter la mise en ligne de cet épisode 2. Et puis on vous retrouve demain vendredi pour un troisième épisode. Et en attendant,
jouez bien. Jouez bien.
Les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Olivier.
Et je suis Jérémy.
Et je suis Alexis. Je suis Fendoel.
Et nous allons vous parler du Spiel 14 en direct d'Essen.
Dans Babel, il y a deux extensions différentes mais qui tournent toutes les deux autour de Babel. La première... Donc,
dans quelque part, voilà dans mon sac.
Parfait.
Tire un coup.
Non, alors dans le sac là-bas.
Tire un coup.
Là. Non, regarde, suis mon doigt.
Recule. Ah,
tu cherches le nom
de
son doigt.